Bonjour à tous. Alors, cette table ronde est consacrée à la question du recrutement et des carrières des docteurs en entreprise. Alors, tout d'abord, pour commencer, je vous propose une citation qui, à mon avis, pose en partie le débat. En Allemagne, on dit aux enfants « tu seras docteur ». En France, on leur promet « tu seras ingénieur ». Et c'est une phrase de Maurice Pincus de l'UIMM, citée par le journal Les Échos. Alors, cette citation me semble assez juste, puisqu'en effet, à l'étranger, le doctorat est valorisé sur le marché du travail. Il n'y a aucun doute sur la valeur de ce diplôme. Alors qu'en France, les docteurs peinent toujours à trouver leur place dans les entreprises. Il y a notamment moins de docteurs dans l'industrie que dans les autres pays, et ils sont moins bien payés. Pourquoi ? Déjà, les docteurs sont confrontés à une particularité bien française, le poids des grandes écoles. Les décideurs embauchent plus facilement, voire cooptent, ceux qui ont fait les mêmes écoles qu'eux. Ça, c'est une déclaration de Geneviève Fioraso, en novembre dernier, alors qu'elle affirmait vouloir mener un combat pour que le doctorat soit mieux reconnu par les entreprises. Pour mémoire, je rappelle que la loi ESR, Enseignement supérieur et recherche, de juillet 2013, vise, entre autres choses, à une reconnaissance du doctorat dans les conventions collectives de branche. Mais aujourd'hui, aux dernières nouvelles, à ma connaissance, je crois qu'il n'y a qu'une seule branche professionnelle qui effectivement a reconnu le doctorat, il s'agit de la branche de la chimie, on est d'accord. Alors, pourtant, et c'est là tout le problème, l'emploi scientifique est plus important dans le secteur des entreprises que dans le secteur public. Depuis 2002, le nombre de chercheurs en entreprise dépasse le nombre de chercheurs du secteur public. Ainsi, en 2011, 60% des chercheurs mènent leur activité en entreprise, contre 40% dans le public. Donc, les entreprises représentent des débouchés importants pour les docteurs. Mais la première question qui se pose, c'est de savoir comment aboutir à une reconnaissance du doctorat à travers les conventions collectives de branche et les accords d'entreprise. Reconnaître le doctorat, prévoir de recruter des docteurs avec un certain niveau de rémunération à travers les grilles salariales. La deuxième question porte sur les docteurs eux-mêmes. Sont-ils suffisamment motivés par les débouchés offerts par les entreprises? Ce n'est pas certain, car quand on les interroge, par exemple dans le cadre des études du CEREC, ils répondent, en grande majorité, préférer la recherche publique. 5 ans après la soutenance de leur thèse, 52% des docteurs travaillent en 2012 dans la recherche publique et académique, contre 25% dans la recherche privée. La troisième question porte sur la préparation des docteurs au monde de l'entreprise et sur leurs atouts éventuels. Que peuvent-ils faire pour s'imposer face aux diplômés des grandes écoles? Que peuvent-ils apporter concrètement aux entreprises? Peut-être un esprit plus ouvert, un esprit moins formaté que les diplômés des grandes écoles. Est-ce que, comme le déclarait Geneviève Fioraso, l'embauche de docteurs dans la recherche privée peut amener des innovations de rupture dans les entreprises? Enfin, il faut souligner que les docteurs peuvent travailler aussi dans d'autres champs que le domaine recherche et développement, dans le conseil, la propriété industrielle, la qualité, le marketing, le développement de nouveaux projets, etc. Enfin, je voudrais terminer par un point qui me semble important, les docteurs étrangers. En 2012, les doctorats délivrés à des étrangers constituent 42% des doctorats délivrés en France. 42%. Ce chiffre ne s'élevait qu'à 22% 10 ans plus tôt. Que deviennent ces docteurs étrangers? Intéressent-ils les entreprises françaises, les multinationales, en France ou à l'étranger? C'est une question que nous aborderons avec nos intervenants. Alors, avant de passer la parole à nos intervenants, justement, je voudrais ouvrir une brève parenthèse pour vous présenter le média que je représente et me présenter par la même occasion. Donc, je suis Diane Galbaud, directrice générale de Newstank Éducation. C'est un site d'information spécialisé sur l'enseignement supérieur qui a été lancé il y a un an maintenant, déjà. C'est un site qui propose d'une part des actualités en continu sur l'enseignement supérieur et la recherche, et d'autre part des informations et des éléments de réflexion à travers des dossiers, des analyses, des débats des interviews, etc. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vous signale que vous pouvez découvrir en demandant un test, en vous connectant sur la page d'accueil du site education.newstank.fr. Voilà, je referme cette brève parenthèse et je vais passer maintenant la parole à nos intervenants. Je vais commencer par Clément Courvoisier, qui est président de la Conférence des jeunes chercheurs. Donc, vous représentez et défendez les intérêts des jeunes chercheurs. La première question que je souhaiterais vous poser, c'est de savoir quel lien vous faites entre le doctorat et l'univers de l'entreprise.
Bonjour à tous et à toutes. Pour reprendre ce que c'est la Confédération des jeunes chercheurs, pas conférence,
oui,
confédération. C'est pas grave. La Confédération des jeunes chercheurs, c'est une confédération d'associations de jeunes chercheurs, donc les jeunes chercheurs, doctorants et jeunes docteurs. Donc les associations sont réparties dans toute la France et sont complètement pluridisciplinaires. Enfin, on représente absolument toutes les disciplines du doctorat. À noter aussi que cette année, notre bureau est complètement paritaire entre les femmes et les hommes. La Confédération des jeunes chercheurs œuvre pour la reconnaissance du doctorat comme une expérience professionnelle, donc dans tous les secteurs, publics et privés, à la fois auprès des doctorants par l'intermédiaire de nos associations membres qui peuvent organiser des journées spécialisées tout au long de l'année, mais également auprès des acteurs nationaux, donc comme aujourd'hui nous sommes invités. Reprendre la question, quel parallèle on pourrait faire entre le doctorat, tout d'abord en fait le recrutement en doctorat et le recrutement en entreprise. Je voudrais dire que le recrutement en doctorat, c'est une première expérience de recrutement dans le monde professionnel. Puisqu'effectivement, comme on l'a déjà dit aujourd'hui, le doctorant est un jeune professionnel de la recherche, un chercheur en début de carrière, comme stipulé dans la Charte européenne du chercheur et le Code de conduite pour le recrutement des chercheurs. Donc le doctorant, tout d'abord, doit être recruté sur un projet. Donc on commence par définir le projet, on en définit le contour et la faisabilité. La faisabilité à la fois technique, mais aussi humaine, matérielle et financière, notamment pour assurer un financement, un salaire aux doctorants. Ensuite, il convient de choisir le candidat qui devra être en adéquation avec le projet doctoral défini. Et à ce moment-là, on a une certaine forme de concurrence, ce qu'on peut retrouver lors du recrutement dans les entreprises. Et cette concurrence est bénéfique à la fois pour l'équipe d'accueil qui va s'assurer ainsi de recruter le meilleur candidat au projet doctoral, mais également pour le candidat qui obtient la preuve d'un recrutement transparent. Ces étapes du recrutement en doctorat, mais également pour tous les docteurs employés par des acteurs publics comme privés tout au long de leur carrière, peut s'appuyer sur ce que j'ai déjà nommé, donc la Charte européenne du chercheur et le Code de conduite pour le recrutement des chercheurs, donc qui date de 2005. Donc on en fête les 10 ans cette année. Et on peut s'interroger donc sur sa mise en application. En particulier, il y a un label qui s'appelle donc la HRS 4R, qui est une stratégie d'amélioration des ressources humaines, qui est remise en fait aux établissements qui demandent à suivre et qui prouvent suivre ces principes. Donc les principes, il y a 40 points qui sont détaillés dans ces deux textes et qui permettent une stratégie de ressources humaines pour les chercheurs dans tous les établissements qui les emploient. Donc cette démarche est faite pour rendre les établissements plus attractifs et qui va dans le sens d'une reconnaissance du doctorat. Je pense que les entreprises seront d'accord avec cette vision. Aujourd'hui, seuls 2 établissements en France ont reçu ce label, l'INRA et l'Université de Montpellier. Ensuite, pour rebondir sur déjà ce qu'a dit l'animatrice de cette table ronde, on peut voir, on a pu voir une certaine cooptation lorsque les ingénieurs se recrutent entre eux, et on pourrait penser qu'un levier pour accompagner le recrutement des docteurs dans les entreprises se ferait petit à petit si les docteurs sont réellement dans toutes les directions d'entreprise, ressources humaines, communication, direction juridique, etc., de manière à mieux faire connaître le doctorat dans les entreprises et donc mieux cerner pourquoi les docteurs seraient importants pour répondre aux besoins de l'entreprise. Le deuxième point que je voudrais aborder, c'est un point de vocabulaire, puisque la communication peut être un point essentiel et fondamental pour faire reconnaître le doctorat et pour que les entreprises comprennent et sachent réellement ce qu'est un docteur. Donc un vocabulaire adapté, cela passe par l'abandon du mot « thésard » au profit du mot « doctorant » qui recouvre davantage le jeune professionnel de recherche qu'il est. Le mot « thésard » faisant explicitement référence au manuscrit de thèse qui est effectivement le livrable du doctorat avec sa soutenance. Mais un doctorant n'est pas seulement quelqu'un qui écrit un livre qui s'appelle la thèse. Donc, par là même, on va appeler un directeur doctoral qui va accompagner le doctorant tout au cours du projet doctoral, et non pas seulement de l'écriture du manuscrit. Le projet doctoral, c'est quelque chose qui peut aller bien au-delà de la simple... de la simple recherche experte sur un domaine. C'est aussi des phases de développement professionnel, d'acquisition et de mise en pratique des compétences, donc on a déjà discuté dans la journée, des compétences qui peuvent être complètement transverses, donc pas forcément liées à une discipline, la discipline dans laquelle on effectue sa recherche. Et également, le projet doctoral peut conduire à des réflexions sur la poursuite de carrière. Donc, quand on est recruté en doctorat, il est déjà important d'avoir une stratégie de carrière, puisque le doctorat, en tant que première expérience professionnelle, c'est la première pierre, et doit nous permettre de continuer dans une carrière. Donc, on peut déjà avoir des idées. Et au cours du projet doctoral, on peut continuer à réfléchir à son projet. Effectivement, pour développer son projet professionnel, on a pour cela, lors du projet doctoral, accès à un certain nombre de formations qui vont développer des compétences transverses comme la gestion de projet, le management et l'entrepreneuriat qui sont chers aux entreprises, la communication écrite et orale, la médiation scientifique, l'enseignement, également la valorisation de la recherche, savoir ce que c'est un brevet, les droits d'auteur qui y sont attachés, ou encore des compétences en informatique qu'on va pouvoir retrouver dans toutes les poursuites de carrière ensuite. Également, on a évoqué tout à l'heure la présence d'associations de jeunes chercheurs, dont je suis représentant. Effectivement, les associations de jeunes chercheurs permettent également de s'ouvrir et d'avoir un regard plus large que le strict contenu scientifique du projet doctoral et permettent notamment d'organiser des événements ou de se rencontrer et de favoriser ainsi des liens entre la communauté des doctorants qui ne doit pas être coupée de la communauté des docteurs qui sont eux qui ont poursuivi une carrière, pourquoi pas en entreprise. Il y a la possibilité avec le contrat doctoral d'activités hors recherche que sont donc l'enseignement, la diffusion de l'information, la valorisation des résultats de la recherche, ou une mission d'expertise, de conseil donc en entreprise, qui va également permettre un lien entre le public et le privé et donner un goût finalement au doctorant à l'entreprise. En conclusion, donc on est dans une dynamique en ce moment de régionalisation de la recherche, notamment par l'installation des communs, de la mise en place des communs. Et on pourrait se poser la question d'une vraie politique scientifique de site qui pourrait permettre de favoriser le lien entre les établissements et les entreprises, donc sur tout le territoire, commu par commu, des rapprochements entre commu et entreprise. Ça pourrait être une des solutions, un des essais en tout cas, pour rapprocher établissements et entreprises et favoriser la poursuite de carrière des docteurs dans tous les secteurs d'activité socio-professionnelle. Merci.
Merci à vous. Donc, je vais passer la parole maintenant aux entreprises. Et nous allons commencer par Laurence Breton-Cueny, qui a la particularité d'être à la fois docteur et DRH du groupe AFNOR.
Bonjour à tous.
Et membre du bureau de la NDRH.
Oui, tout à fait. C'est l'Association nationale des DRH. Ça marche pas. Voilà. Oui, c'est étonnant parce que ça va peut-être être la première fois que je vais un petit peu parler de mon parcours. C'est une chose qui est méconnue, on n'en parle jamais de nos titres en France. Ça a commencé pour moi dans la recherche, quand mon directeur de recherche m'a dit que je n'étais pas un poulain et que je ne serais jamais enseignant-chercheur dans l'université. Et qu'en plus, comme j'étais une femme, que le secondaire était parfait pour moi, d'autant que j'étais mariée, donc ça me permettait de concilier. Bon, cela étant, il était âgé, mais le doyen de l'université avait à peu près la même idée à l'époque. Cela étant, au moins, les cartes étaient posées dès le départ sur la table et ça ne m'a pas empêché d'être à terre dans une autre université parce que je suivais mon mari. Moi, j'étais le poulain de l'université où j'étais au départ et puis j'ai suivi mon mari. Puis quand on arrive dans une université pour faire le doctorat, il y a d'autres poulains, donc il y a un arbitrage qui se fait. Bien qu'on m'ait dit que ça n'existait plus, le terme poulain, aujourd'hui, mais je pense que, voilà, le terme a changé, mais à mon avis, la réalité est la même. Cela étant, j'ai quand même eu la chance d'être à terre plusieurs années à l'université d'Haute-Alsace. Et alors, pour des IUT, ce qui était très surprenant pour moi, parce que j'avais plein d'a priori sur les formations, je suis scientifique à la base, et je trouve qu'on nous inculque dans le crâne plein de différences entre les uns et les autres. J'ai découvert un monde, et puis surtout j'ai accompagné les étudiants sur le terrain, et j'ai aimé l'entreprise. J'ai aimé l'entreprise et j'ai connu la solitude des laboratoires de recherche, où j'étais la seule dans ma spécialité, les sciences de gestion. Voilà, ça ne m'a pas empêché d'être sur un programme européen, mais cette solitude qu'il n'y a pas dans les écoles doctorales, moi, je l'ai connue. Mais en fait, j'ai été, pas mentorée en France, mais mentorée par des professeurs québécois qui m'ont pris sous leur aile. Et c'est là que j'ai développé des méthodologies avec le Québec. Ce qui fait qu'une fois que j'étais docteur et que j'ai terminé mon dernier à terre, se posait la question de ce que j'allais devenir. Je savais que je n'aurais pas de poste, je rentrais sur Paris avec mon époux, il n'y avait aucun poste. Et donc j'ai décidé de créer ma propre activité, puisque j'avais des compétences en cartographie cognitive. J'ai eu la chance d'avoir le professeur Lemoigne, ce que je pourrais vous faire d'ailleurs une cartographie des universités en France, étant passé d'une fac marxiste-léniniste à la base. Ensuite, j'ai été dans une fac libérale, donc je connaissais un peu les différences des uns et des autres. Surtout, en créant une activité et allant dans le conseil, j'avais plein d'a priori sur le monde de l'entreprise. Pour moi, il y avait un côté blanc, un côté noir. Je pense que je n'aurais pas été capable d'avoir un poste tout de suite. Mais 5 ans dans le conseil, et alors surtout j'ai travaillé aux Antilles, ce qui est très formateur, j'étais seule sur des missions d'organisation, de négociation, et j'ai beaucoup aimé. En revanche, ce qui est sûr, c'est que quand on est docteur pluridisciplinaire, comme c'était mon cas, on est vu comme un intellectuel. Une intellectuelle, c'est génial d'avoir son consultant, elle est docteur, c'est bien. Après, la réalité du terrain est différente, même si ça se passe bien. Alors, je vous l'avoue, j'ai fait ensuite un master à HEC, je sais, je suis tombée dans le travers de beaucoup. Voilà, mais cela étant, j'avais déjà les choses en moi. La seule chose que j'ai trouvée importante, c'est qu'on a une base universitaire qui est extraordinaire, qu'on n'est jamais reconnu quand on est thésard, même si ça se dit plus, qu'on a une grande solitude. franchement, qu'est-ce qu'on aime les gens en école de commerce? Ils sont beaux, ils sont forts, c'est quand même agréable de se l'entendre dire. Et surtout, ils ont des maximes, apprendre à oser. Et ils mettent en marche toutes les connaissances que nous avons. On a plus de connaissances, mais alors qu'est-ce qu'ils ont comme apprentissage à mettre en œuvre? Quand on arrive à avoir les deux, c'est tout à fait formidable. Et puis là, je suis passée dans le monde de l'entreprise, directement à la tête de service RH. C'était l'ANAES, la Haute Autorité de Santé, et je suis passée DRH, c'est mon cas, au groupe AFNOR depuis 9 ans maintenant. Donc je suis dans un COMEX, je suis membre du comité exécutif, je dépends directement du directeur général du groupe. Et chez nous, je ne suis pas la seule docteur. Nous sommes une vingtaine de docteurs au sein du groupe AFNOR, ce qui est beaucoup parce que nous sommes une ETI, une entreprise de taille intermédiaire. Souvent, on nous méconnaît, et c'est vrai que moi aussi, quand j'étais, on va dire, chercheurs, on parlait des grands groupes qui sont à côté de moi, on oubliait que l'emploi est dans les PME et les ETI, et pourtant, nous, dans la vingtaine de docteurs que nous avons chez nous, on n'est que deux à être restés dans nos spécialités. Moi et une des juristes qui est docteur en droit. Sinon, on a de tout. On a bien entendu de la pharmacie, on a de la chimie, on a des sciences physiques. Celui qui s'occupe de l'institutionnel et de la coopération technique est docteur en physique. Celui qui est docteur en informatique n'est pas à l'informatique, pas du tout, il est en électrotechnologie. Et celui qui est en électrotechnologie est docteur en informatique. Tout cela pour dire que finalement, peu importe sa spécialité de base, les choses sont différentes, ce sont les compétences que l'on développe. Nous, les thèses de recrutement sont les mêmes. Moi, je suis pour... De toute façon, le recrutement, c'est ça. Chaque poste a sa valeur, peu importe le profil. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des spécialités qui sont plus demandées que d'autres. Si vous avez une spécialité très demandée en informatique, en BTP, vous aurez un poste qui sera mieux valorisé. Et puis, c'est ce qu'on a dans le ventre. Ce que j'ai aimé, c'est de savoir sa propre valeur, ce qu'on était capable de faire. Aucun des docteurs chez nous n'est analytique. Il n'aurait jamais pu faire de la recherche fondamentale. Ils sont beaucoup au développement. Pour tout vous dire, je regardais les statistiques. En fait, 10% des managers chez nous sont docteurs. Moi, je suis en rang 1, que ce soit en rang 2, que ce soit en rang 3. Ils ont fait leur carrière chez nous. On a en moyenne 9 ans d'ancienneté. On est un peu plus âgés. La moyenne d'âge est 42 ans dans le groupe. Nous, on a plus de 44 ans de moyenne d'âge. Moitié d'hommes, moitié de femmes. Donc, on peut concilier l'activité. Et je pense qu'il y en a d'autres qui n'ont pas mis qu'ils étaient docteurs parce qu'ils avaient peur qu'ils ne soient pas recrutés. Ça, c'est un point important. Certains ne le disent pas, donc j'en ai 21 répertoriés, mais je ne suis pas sûre que certains n'aient pas omis de le mettre sur leur CV de peur de ne pas être recrutés. Mais on voit la différence, en tout cas, c'est pas pour moi le titre, parce que chez nous, en tout cas, même si nous avons 3 polytechniciens, de toute façon, le diplôme n'a jamais été ce qui primait. Ce qui primait en premier, c'était les compétences, la façon également, dans les compétences, il y a également le comportement, et puis la façon dont on a des valeurs. Moi, si je pouvais juste donner peut-être un petit conseil, on devrait faire des tests quand on est en école doctorale, avant et après, pour mieux se connaître. Je pense qu'on ne se connaît pas, qu'on ne sait pas vraiment se vendre, parce qu'on ne sait pas ce qu'on sait faire, en clair. Alors qu'on a des qualités de synthèse, on a des qualités d'expression écrite et orale. Et en revanche, il faut faire un doctorat pour de bonnes raisons, pas pour des mauvaises. La bonne raison, c'est parce qu'il y a un sujet qui nous plaît, qu'on a envie de faire une chose, pas parce qu'on n'a pas trouvé d'emploi et qu'on ne sait pas quoi faire et qu'on repousse le moment de l'entrée. Nous, on a toujours pris des chiffres chez nous. Souvent, c'était l'école des mines de Saint-Étienne. Ils n'avaient pas forcément fait l'école des mines de Saint-Étienne avant. Ils faisaient souvent leur doctorat. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant de faire des chiffres, comme moi, d'être à terre, pouvoir travailler, avoir une reconnaissance. Mais en revanche, je ne suis pas pour les classifications. Moi, je ne suis pas dans un groupe du 440. Ce n'est pas parce que vous avez fait ILX ou vous avez fait l'ISSEC que vous aurez un salaire différent. En revanche, c'est ce que vous avez dans le ventre et ce que vous pouvez amener. C'est la création de valeur. Nous, on parle de contribution, rétribution. Et c'est ce qui marque, ce qu'on arrive à faire. Voilà un petit exemple pour nous. Alors, on a des filiales aussi à l'étranger. En France, on a un peu plus de 1000. Là où il y a plus de docteurs chez nous, c'est en Allemagne. On a une de nos filiales qui s'appelle GoodCert. C'est une boîte à docteurs. On a plein d'équivalents du CIFRE en France qui développent des produits. Tous ceux qui sont passés par le CIFRE, à part ceux qui ne voulaient pas rester, sont restés chez nous. C'est pour nous un très bon tremplin de faire, on va dire, de la recherche appliquée à nos produits et prestations. Et en Allemagne, ils ne font que ça. Et surtout, ils sont appelés docteurs, contrairement à nous, bien sûr, puisque nous n'avons pas le droit de porter nos titres en France. Voilà ce qui est différent dans notre filiale allemande. Mais eux, ils sont très forts. Et là encore, de bien rappeler que ce n'est pas parce qu'on choisit une filiale qu'on reste dans sa filiale.
Merci à vous. Alors, nous allons poursuivre notre tour de table. Et nous allons nous tourner maintenant vers Jean-Marie Lambert, qui est directeur général adjoint en charge des ressources humaines chez Veolia.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Je ne suis désolé, je ne suis pas docteur. Donc c'est déjà un bon signe que je m'en excuse auprès de vous. Mais j'étais aussi un peu mouton noir quand j'ai commencé à travailler il y a très très longtemps, bien avant votre naissance, parce que j'étais un littéraire dans des entreprises de scientifiques, ce qui est aussi une autre tare. Bon, et donc, effectivement, j'ai vite cessé de m'en excuser. Alors, je voudrais, en synthèse, déjà, vous dire que chez Veolia, bon, Veolia est un grand groupe, comme vous le savez, il fait, selon l'heure et le moment de la journée, 170 000 salariés, dont 50 000, un peu moins de 50 000 en France. Et j'ai essayé de compter combien on avait de docteurs dans le groupe. Ben, c'est extrêmement compliqué. Il y en a beaucoup, mais simplement, première statistique, on a un laboratoire central de recherche qui s'appelle Veri. 80% des salariés de Veri, des cadres de Veri, sont docteurs. D'autre part, Veri, qui est donc ce laboratoire central de recherche, qui comprend 400 salariés quand même, prend 10 conventions chiffres par an, ce qui est un chiffre tout à fait respectable et que nous espérons développer. Derrière, moi, j'aurais tendance à distinguer deux choses. Premier point, il y a les docteurs qui rentrent dans l'entreprise parce que c'est le prolongement direct des recherches qu'ils font et qu'ils mènent. Ce qui est notre cas, ce qui nous intéresse. Il va de soi que, compte tenu des activités du groupe qui sont l'énergie, la propreté et l'eau, il y a un certain nombre de spécialités que vous représentez qui nous intéressent dans le cadre du prolongement et des accords que nous avons avec les universités. Et donc ces docteurs-là ont bien entendu une place idéale de choix. Et là, je dirais presque, en prenant presque votre image, ils sont quasiment recrutés par parthénogenèse, puisque effectivement, leur grand frère ou leur grande sœur recrute les poulains. Et ça, c'est un sujet qui fonctionne très bien, puisque hélas, en France comme ailleurs, la parthénogenèse fonctionne assez bien, y compris chez les docteurs. C'est pas pour vous rassurer, mais c'est ainsi. L'autre cas de figure, ce sont ceux qui veulent rentrer dans l'entreprise, mais en ne faisant plus de recherche. Et donc, en changeant d'orientation, sans renier, bien entendu, leur formation, leur diplôme, mais en faisant autre chose. Et là, on en a aussi un certain nombre, qu'ils soient d'ailleurs docteurs dans les matières scientifiques, comme dans les matières de sciences humaines, et on en a pas mal, et évidemment les docteurs en droit. Bon, on a effectivement un certain nombre de docteurs qui rentrent dans l'entreprise dans ce cadre-là, y compris chez moi à la direction des ressources humaines. On a quelques docteurs qui ont de brillantes carrières en ayant fait une carrière complète, enfin un parcours complètement universitaire préalablement. Moi, ce que j'aurais tendance à dire quitte à faire un peu de provocation, mais gentil, moi je ne suis pas du tout sûr que ce soit le statut qui fasse le salut des docteurs. Je suis convaincu du fait que ce n'est pas par les conventions collectives qu'on arrivera à quelque chose, d'autant que la plupart des conventions collectives assimilent, entre guillemets, les docteurs aux diplômés des écoles d'ingénieurs. Donc à mon avis, le sujet n'est pas là. D'autre part, j'ai tendance à dire aussi que la vraie chance pour les docteurs, c'est le partenariat entre les entreprises et les universités qui les forment. Il est clair qu'à partir du moment où nous avons des partenariats sérieux avec les universités, bon, ce qu'on essaye d'avoir avec quelques-unes, c'est à ce moment-là que l'on peut avoir un travail de fond avec les docteurs et vraiment faire du travail de fond sur la connaissance mutuelle entre l'entreprise et le milieu de la recherche. Parce que faute de ce travail de fond, ça repose en fait sur les aptitudes individuelles, sur le réseau individuel pour savoir se débrouiller, pour savoir connaître les choses et pour savoir effectivement avoir son propre réseau et pouvoir avoir ses propres débrouillardises, si vous passez l'expression, pour y arriver. Et donc moi je crois beaucoup au fait, comme nous essayons de le faire avec nos moyens, des partenariats avec des universités, comme aujourd'hui nous en avons en particulier avec Cergy Pontoise, puisqu'une des pistes que nous essayons de faire, c'est de former des docteurs par la validation des acquis de l'entreprise, de l'expérience. Et ça c'est vrai que c'est une autre formule qui permet effectivement de faire un travail de fond avec le monde universitaire sur ces choses-là. Un point aussi que je voudrais signaler, une des grandes chances pour le monde de la recherche et pour les docteurs, c'est l'internationalisation des entreprises. Aujourd'hui, et ce n'est pas une critique vis-à-vis de mes camarades qui ont fait des grandes écoles d'ingénieurs, que veut dire à Hong Kong ou à Moscou l'école polytechnique ou l'école centrale de Paris? Pas grand-chose. Dans le monde anglo-saxon, vous savez bien, polytechnique, c'est l'équivalent de ce qu'on appelait des DUT. Bon, donc, en revanche, la recherche, ils connaissent. Les docteurs, ils connaissent. Et c'est un monde, effectivement, et c'est un monde qui leur est familier. La publication de travaux dans les revues, ils connaissent. À l'étranger, effectivement, lorsqu'on nous demande des références en tant que Veolia pour soumissionner à un certain nombre de contrats, on nous demande quelles sont les références intellectuelles d'un certain nombre de salariés de notre entreprise. Est-ce qu'ils ont publié dans des revues scientifiques des travaux qui sont liés à nos activités. Bon, c'est vrai que c'est le cas grâce à notre laboratoire de recherche et à nos nombreux chercheurs qu'on y a. Mais ça, c'est quelque chose qui va être amené à se développer de plus en plus dans le monde dans lequel nous sommes. Et c'est pourquoi, effectivement, moi, je suis absolument convaincu du fait que le monde de la recherche doit mieux connaître l'entreprise. Je crois que la voie fondamentale, c'est le partenariat entre les universités et les entreprises sur ce sujet-là. Et d'autre part, sur le recrutement individuel, j'insiste lourdement sur deux ou trois points. D'abord, on n'est plus dans le même monde qu'il y a 10 ou 15 ans. On n'est plus dans le monde, entre guillemets, où les gens se recrutaient souvent par relation, etc. Pour les jeunes, c'est de moins en moins le cas. La plupart des grandes entreprises ont des systèmes extrêmement normés et audités de recrutement. Toutes nos entreprises, enfin, les plus grandes, mais je pense aussi des entreprises sérieuses comme l'AFNOR, ont des systèmes où ils sont contrôlés, où c'est audité, où on nous demande si on ne contrevient pas à des principes d'équité. Et donc, tout un tas de choses qui existaient auparavant, maintenant, n'existent plus. Et c'est tant mieux. Ce qui fait que les critères de recrutement sont très objectivés. Pour être très clair, un jeune ou un moins jeune qui voudra rentrer chez nous, plus il aura fait d'expérience à l'international, plus il aura fait de stage en entreprise, plus il aura acquis sa connaissance sur un certain nombre de sujets, y compris théoriques, et plus il aura dégagé une personnalité, bon, je ne suis pas un fan des tests, mais ça on pourra en discuter longtemps, plus il aura développé une personnalité qui nous montrera qu'il peut se plaire dans l'entreprise, qui peut lui apporter quelque chose, qui peut apporter une plus-value, et mieux on se portera. Nous, nous croyons fondamentalement que dans une entreprise, il faut du mélange. C'est une expression qui est passée de mode, mais je la reprends à mon compte. Il est clair que dans une entreprise comme la nôtre, nous devons avoir des Français, des pas Français, avoir des principes d'égalité entre les hommes et les femmes qui sont de plus en plus rentrés dans les murs, c'est qui portent leurs fruits maintenant. Et nous devons effectivement avoir un bon équilibre entre l'ensemble des systèmes de formation qui sont à notre disposition. C'est pourquoi, par exemple, bon, à la DRH centrale, où nous sommes 70, on est un grand groupe, on a 10% d'étrangers, anglo-saxons, italiens, etc. On a la plupart des gens qui sont dans cette DRH sont issus de formation universitaire. On a 5 docteurs qui viennent de sciences sociales. Et nous sommes fiers de ce genre de cours, dans la mesure où, effectivement, ça nous permet de garantir une représentativité équivalente pour l'ensemble de la société au sein du groupe. Donc moi, je crois, pour synthétiser ce que je voulais dire, c'est que, premier point, il faut se remettre en arrière. Il y a un très grand pas qui a été fait, et je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, sur la connaissance et l'intégration des chercheurs au sein de l'entreprise depuis une dizaine d'années. Il y a 20 ans, dans le même genre de débat, c'était catastrophique et glauque, pour être très clair. Il n'y aurait eu personne dans la salle. Bon, parce que ça n'intéressait pas forcément non plus le monde de la recherche que de s'intéresser à l'entreprise, pour être tout à fait honnête. Il y a eu quand même beaucoup d'avancées qui ont été faites. Nous nous en félicitons. Nous souhaitons continuer. Et nous souhaitons continuer à avoir aussi bien des chercheurs qui poursuivront leur parcours au sein de l'entreprise que d'autres qui ont envie de faire autre chose et dont on considère qu'en tant que tel, le diplôme de docteur ou équivalent est un diplôme qui vaut quelque chose au même titre que ceux de formation généraliste comme les écoles d'ingénieurs françaises qui sont des écoles généralistes ou comme des diplômes comme l'Institut d'études politiques de Paris ou d'autres. Voilà.
Donc, nous allons passer la parole à notre dernier intervenant, Jean Agulon, DRH France de Renault.
Bonjour à toutes et tous. Je vais essayer d'éviter le risque de la répétition. Peut-être en reprenant l'intitulé du slide et en proposant d'y répondre assez rapidement, on est, je crois, tous convaincus qu'effectivement, les docteurs sont un atout pour l'entreprise. Et un certain nombre d'illustrations ont été données. La question, c'est un peu comme aux cartes. Une carte, c'est pas un atout en soi. Elle devient un atout en fonction de la façon dont on la joue. Et c'est peut-être plutôt là-dessus que j'insisterai. Alors, peut-être rapidement quand même, pourquoi dire que chez Renault et dans l'industrie d'une manière générale, les docteurs sont un atout? C'est parce que, encore plus après la période de crise qu'on vient de traverser, la question de l'innovation est une question qui est centrale dans les questions de la compétitivité de l'industrie et en particulier de l'industrie automobile. Et si on fait un raccourci sur lequel je reviendrai tout à l'heure, docteur, chercheur, chercheur, innovation, on voit assez rapidement que c'est une question centrale. Ça l'est encore plus dans le domaine de l'automobile pour deux raisons. La première, c'est que c'est un des secteurs industriels les plus concurrentiels avec le cycle de renouvellement des produits les plus rapides et où la façon de se distinguer par rapport à la concurrence est autant dans le prix et la qualité que dans l'innovation. Et il n'est que de regarder la façon dont les véhicules vont se trouver connectés. Il n'est que de regarder la façon dont on va les conduire de façon autonome dans les années à venir pour essayer d'imaginer la quantité d'innovations techniques, technologiques qu'il va falloir y mettre. Mais l'autre raison, c'est que c'est aussi un objet social. C'est un des objets qui pose le plus la question de son intégration dans la société. Et donc, c'est aussi un lieu où l'innovation dans les sciences sociales est extrêmement importante. Donc voilà deux raisons pour lesquelles les docteurs sont un atout pour l'industrie et l'industrie automobile. Alors, le problème, c'est que ça se heurte à des difficultés ou à des préjugés. La première difficulté, si on fait une équation assez simpliste, docteur, chercheur, innovation, c'est que le temps de l'innovation est de moins en moins compatible avec le temps du management et de la gestion. Dans la gestion, le droit à l'erreur, le droit au fait de se tromper est quelque chose qui est de moins en moins admis. Et si on veut préserver l'atout que représente le fait de prendre des docteurs et de préserver des zones d'innovation, l'enjeu, c'est de préserver dans les modes de fonctionnement de l'entreprise des zones de gestion qui n'obéissent pas tout à fait aux mêmes règles que le reste de l'entreprise. Et donc, une des premières difficultés, c'est d'arriver à culturellement absorber la façon un peu originale de faire d'un docteur ou d'un chercheur. Le deuxième préjugé auquel on est confronté, c'est qu'effectivement, on associe peut-être un peu trop souvent le profil de docteur au profil de chercheur. Or, ce n'est pas quelque chose d'aussi bijectif que ça. Je crois que vous en êtes l'illustration. Et on peut aussi avoir des docteurs qui immédiatement trouvent leur place, trouvent leur projet professionnel dans des activités extrêmement opérationnelles et complètement dans le flux de fonctionnement de l'entreprise. Un des autres préjugés, c'est qu'il y aurait des différences de traitement dans le recrutement ou dans la gestion de carrière entre les docteurs et puis les ingénieurs. Bien qu'étant une société du CAC 40, je vous assure que les ingénieurs de Polytechnique et de Centrale sont payés en fonction de la performance, en fonction des objectifs tenus ou pas, et pas en fonction de leur diplôme. Et il en va de même, évidemment, des docteurs. Ce qui existe, et ça c'est partagé au niveau de toutes les entreprises, c'est des grilles de fixation du salaire d'embauche. Et ce qui détermine ces grilles, c'est pas le fait de sortir de telle ou telle école, c'est la valeur marché. C'est-à-dire que les compétences rares sont plus payées que les compétences qui le sont moins. Et de ce point de vue, l'association d'un diplôme de docteur avec un diplôme d'ingénieur est une vraie valeur ajoutée. Mais ça ne veut pas dire que quand on est docteur, on a moins de valeur que quand on est, ingénieur. Donc ça, c'est une idée que je souhaitais renverser si c'était celle que vous aviez en rentrant dans cette salle. Et il en va de même dans la gestion de la carrière. Les docteurs sont gérés comme des collaborateurs comme les autres. Et pour terminer, si je voulais citer quelques atouts que les docteurs peuvent avoir par rapport à des profils, on va dire, plus conventionnels, quand on a suivi le parcours Terminal C, Prépa, École d'ingénieur, etc., c'est que c'est en général des personnalités assez originales qui sortent assez souvent des cadres habituels. C'est souvent des personnes qui, au-delà du fait qu'elles ont su démontrer de la persévérance pendant les deux années de classe prépa, parce qu'après, en général, c'est un peu moins soutenu comme rythme, c'est des gens qui ont réussi à être persévérants pendant de nombreuses années. C'est ensuite des gens qui partent souvent d'une page blanche et à un certain niveau de responsabilité dans l'entreprise, c'est les compétences requises, c'est-à-dire qu'on cherche des gens qui sont capables de sortir du cadre, qui sont capables, c'est d'ailleurs là-dessus que se base l'évaluation des postes par les grands cabinets. Et puis, c'est des gens qui, le plus souvent aussi, ont des grandes facultés d'adaptation. Vous avez décrit le parcours que vous avez suivi en changeant d'une université à l'autre. Ça, c'est des capacités que n'ont pas forcément des profils plus conventionnels qui sortent ou d'écoles de commerce ou d'écoles d'ingénieurs. Et donc, voilà, ça fait partie aussi des atouts dont il faut être conscient.
Alors, une de mes questions, justement, c'était que peuvent faire les docteurs pour s'imposer face aux diplômés des grandes écoles. Et à vous entendre, on a l'impression que finalement, le poids des grandes écoles n'est pas aussi important qu'on le croit. C'est une fausse idée.
Alors déjà, il ne faut pas oublier puis il y en a qui cumulent. Il y a des ingénieurs de grandes écoles qui sont docteurs en plus. Ce qui est aussi un atout dont il faut savoir se servir. Il est clair que, par exemple, chez Veolia, on a un certain nombre de dirigeants, et pas des moindres dans l'entreprise, qui sont à la fois ingénieurs et docteurs. Et ils ont d'ailleurs, du coup, une sensibilité et un goût pour la recherche et l'innovation qui nous sert beaucoup. Donc je pense qu'il ne faut surtout pas opposer deux mondes qui sont de moins en moins étanches. Ces mondes, dans le monde actuel, le monde des grandes écoles, le monde des universités, la recherche, les docteurs, la France, l'étranger, tout ça maintenant est devenu de plus en plus poreux. Et donc je crois que s'imposer n'est pas le terme qui convient. Je pense que, comme je le disais, il y a deux choses. Il faut que les docteurs sachent mettre en valeur leurs capacités et leurs compétences. Alors en plus, je ne veux pas non plus tomber dans les lieux communs qui diraient que les docteurs sont comme ceci, les centraliens sont comme cela, les Sciences Po sont ainsi, etc. Mais il y a un point sur lequel que j'ai remarqué et qu'on remarque de plus en plus, c'est que dans le monde moderne, il faut maintenant, à nouveau, je m'en félicite, savoir rédiger. Et l'atout important que les docteurs ont de ce point de vue-là, par rapport à d'autres, c'est celui-là. C'est-à-dire que vous savez rédiger, la plupart d'entre vous, en bon français et en excellent anglais, je le dis à dessein. Et donc, il est clair que ça, c'est un atout qui est extrêmement important dans le monde moderne, parce que vous savez mettre en forme des choses, mettre en forme des concepts, mettre en forme des innovations. Après, effectivement, c'est les expériences que vous pouvez avoir dans les entreprises qui vous permettront, effectivement, de faire la jonction entre la théorie et la pratique. Mais déjà, vous avez un atout considérable là-dessus, c'est que vous êtes capable de mettre en ligne un certain nombre de sujets et de savoir rédiger, conceptualiser des choses, ce qui n'est pas si fréquent, croyez-moi.
Je suis parfaitement d'accord. Dans les compétences fondamentales chez nous, pour tout le monde, il y a l'expression écrite et l'expression orale. On est en grande campagne de tests Voltaire, on fait passer des tests d'orthographe à tout le monde. Nous, l'anglais aussi, pour les cadres, est indispensable. Tout le monde a minimum 800 en TOEIC, en tout cas... quand on veut travailler, que ce soit la normalisation ailleurs, ça c'est indispensable. Et c'est vrai que l'intelligence de la situation, c'est important. L'agilité, ne pas avoir peur, l'esprit ouvert, savoir travailler avec les autres. En fait, le problème, c'est de savoir se vendre. Parce que souvent, en fait, on passe son temps à faire sa thèse. Alors ça dépend, certains ont des contrats d'acteurs ou pas. Je pense que finalement... voir du monde, ça peut aussi aider, avoir une ouverture d'esprit. Mais en fait, on ne sait pas quelles sont ses propres compétences. Et on ne peut pas les vendre à autrui si on ne les connaît pas soi-même. Je suis d'accord, quelqu'un qui rédige bien, nous, c'est simple. Si je regarde pour la normalisation, là où nous avons le plus de docteurs, et comme en chef de projet, avant de venir responsable développement, voire manager après, ils ont à la fois cette capacité de travailler avec des univers incertains, c'est-à-dire on a l'ensemble des parties prenantes. Il faut trouver le consensus, il faut avoir un esprit de synthèse, une rapidité, une capacité d'adaptation et d'agilité. Et tout ça, on l'a. Et savoir bien rédiger, aller vite. La seule chose, il faut être synthétique. Donc ça ne peut pas être le cas de tout le monde. Mais c'est vrai qu'on retrouve de plus en plus des compétences de base qui sont celles, en principe, d'un doctorant.
L'important, c'est de savoir se vendre. Mais pour se vendre, il faut bien connaître le monde de l'entreprise. Est-ce que, là, ma question s'adresse plutôt à vous, est-ce que les docteurs connaissent suffisamment l'univers des entreprises ?
Bonne question. C'est vrai que la recherche dans les unités de recherche n'est pas nécessairement identique à celle qu'on peut retrouver dans les entreprises. Cependant, je pense qu'avec l'ouverture des missions doctorales donc, que j'ai évoquées tout à l'heure, mission conseil en particulier, ou encore des formations où on va prendre conscience que certaines compétences sont complètement transversales et sont complètement transférables dans les entreprises, on peut s'adapter, enfin un docteur peut s'adapter assez rapidement à une entreprise. Ensuite, un docteur qui va rentrer dans une entreprise, comme tout nouvel employé de l'entreprise, va devoir faire connaissance avec l'entreprise et son monde particulier et ses codes particuliers. Que ce soit un docteur ou peu importe quelqu'un d'autre qui arrive dans l'entreprise spécifique.
Je pense qu'il y a quelque chose qui est à notre disposition maintenant et à la vôtre depuis peu, qui est le nouveau chapitre de la thèse. Je pense que ça, c'est un outil qui peut être extrêmement important vis-à-vis des entreprises, dans la mesure où cet outil, bon, qui est encore tout neuf, hein, de mémoire, peut vous permettre effectivement de valoriser le parcours vis-à-vis des entreprises et peut vous permettre effectivement de développer un certain nombre de sujets avec les uns et les autres. Et je crois, bon, c'est pas la panacée, un nouveau chapitre de la thèse, mais je pense effectivement que ça peut être important pour vous permettre de faire connaître et de mieux ancrer le sujet dans le parcours professionnel. Bon, d'autre part, moi j'aurais un peu tendance à dire que l'expérience que j'ai, quand on a un bon partenariat avec les universités, les étudiants et ceux qui préparent des thèses connaissent bien les entreprises. En plus, par rapport à ce qui se passait il y a 10 ans, il y a une vraie évolution, dans la mesure où beaucoup d'entre les chercheurs maintenant ont l'habitude de partenariat avec les entreprises, ont l'habitude de chercher des sujets, de chercher des accords, y compris des financements, avec les entreprises. Donc il y a une meilleure connaissance mutuelle qui sert aux uns comme aux autres.
Alors, avant de passer aux questions dans la salle, j'ai une dernière question sur les docteurs étrangers dont on a parlé tout à l'heure. 40% des diplômés de doctorat en France sont étrangers, donc c'est vraiment un chiffre très élevé. Peuvent-ils intéresser les entreprises françaises, les multinationales, en France, à l'étranger?
Je pense que toutes les entreprises aujourd'hui, vous évoquez votre implantation internationale, on est sur 120 pays. Évidemment que, enfin, je poserai la question à l'envers, pour quelles raisons ne nous intéresserait-il pas?
Après, il y a des difficultés aussi quand ils veulent travailler en France. Enfin, il y a certains problèmes qui peuvent se poser.
C'est pas lié à leur statut de docteur. C'est lié aux conditions d'octroi des autorisations de travail pour les personnes non communautaires européennes. Mais il n'y a aucune raison d'opérer une distinction en fonction de la nationalité, à raison, quand on a en face de nous des gens compétents, titulaires d'un doctorat. Donc ça peut même être un atout, dans la mesure où on cherche à diversifier nos profils. Hein. Vous évoquiez tout à l'heure, M. Lambert, la diversité. La diversité, c'est aussi la diversité des origines, des expériences. Donc c'est des profils tout à fait intéressants.
Donc vous en recrutez, les docteurs étrangers? Oui.
J'aurais même tendance à inverser la proposition. C'est-à-dire que dans un groupe comme le nôtre, si le chercheur, l'ancien chercheur, veut évoluer, il va falloir qu'il passe par l'international. Donc ça veut dire en clair que ce n'est pas une question de nationalité, mais le chercheur, l'ancien chercheur formé en France, qu'il soit français, chinois, gabonais, chilien, etc., multipliera ses atouts d'évolution de carrière dans un groupe comme le nôtre s'il est prêt à partir à l'international. Pour deux raisons. Premier point, c'est que de plus en plus, et c'est bien normal, les pays dans lesquels on travaille souhaitent, et nous souhaitons, que le management soit le plus possible local. Et là où nous pouvons envoyer des non-locaux, c'est lorsque nous pouvons apporter quelque chose en matière d'innovation et de recherche. Et donc les chercheurs sont aux premières loges. Et c'est en ce sens-là que je disais que l'internationalisation des groupes est un vrai atout pour les chercheurs, c'est qu'ils sont aux premières loges, parce que personne ne discutera du fait que l'on envoie, ce qu'on a fait il n'y a pas très longtemps, deux chercheurs en Inde pour apporter des choses en matière d'assainissement et de traitement des eaux usées. Les Indiens, ils n'ont pas discuté, on a eu les visas. Il n'y a pas eu de souci. Et donc je pense qu'un des gros atouts que nous pouvons avoir sur ces sujets-là, c'est justement le fait qu'on ait plus de 40% de diplômés étrangers dans les doctorats français. Mais là, je les traiterai exactement de la même façon que je traiterai des Français de nationalité. Ce n'est pas le sujet. En revanche, des profils internationaux qui ont envie d'aller à l'international et qui ont envie de bouger, ben, ça sera effectivement des atouts considérables pour une entreprise comme la nôtre.
Donc, on va maintenant passer aux questions dans la salle, parce que l'heure avance.
Alors, je me présente, Monique Martinez, École des docteurs, Toulouse. Alors, je voudrais vraiment vous remercier. Nous sommes très rassurés de vous entendre valoriser de la sorte le diplôme de doctorat. Et nous venons de créer, donc en mars dernier, une association nationale des collèges doctoraux de France, justement, qui a pour but, pour objectif, de valoriser le diplôme de doctorat auprès de tous les secteurs socio-économiques et culturels. Donc nous avons vraiment le même objectif. Mais Madame Breton, je voudrais vous demander, vous êtes très engagée par rapport au doctorat, et nous nous en félicitons bien sûr, mais est-ce que les DRH, donc autour de vous et dans votre association nationale, sont également sensibilisés à cette problématique docteur? Parce que pour les métiers de la recherche, je pense que c'est évident, ils cibleront le doctorant ou le docteur. Mais pour tous les métiers, disons, qui ne sont pas liés directement avec leurs compétences scientifiques, est-ce que l'objectif est que l'entreprise puisse les auditionner, puisse les entendre pour qu'ils soient en concurrence avec les autres pour l'obtention donc d'un poste?
En fait, ils vont être en concurrence avec les autres dès l'instant qu'ils répondent à une offre où ce sera formation supérieure minimum Bac plus 5, qui concerne tout le monde, de l'ingénieur au docteur. La problématique, c'est plutôt de trouver l'annonce et de ne pas avoir peur. Si c'est proche, on ne trouve jamais le mouton à cinq pattes. C'est quelque chose d'approchant. Je pense que parfois, certains ont une idée assez perfectionniste de leurs compétences et de se dire « je ne peux pas aller, c'est un créneau dans lequel je ne vais pas être compétent ». Je pense que c'est plutôt la peur qui empêche. Mes collègues sont comme moi. On va recruter sur les compétences et l'apport. En revanche, le salaire. Si on a un poste qui est à 32 000 euros, que l'on soit docteur ou pas, le poste va s'ouvrir à ce niveau de poste. Il ne faut pas croire qu'effectivement, parce que la personne est docteur, on fera beaucoup d'efforts, sauf si c'est un poste où c'est rare, et donc là, on va pouvoir grimper. Mais au départ, moi, je dis toujours, l'important, c'est de mettre le pied dans l'entreprise, parce qu'on voit, là, en ce moment, dans pleine période, ce qu'on appelle les négociations annuelles obligatoires, et donc j'ai vu un certain nombre de docteurs, j'ai bien vu leur rémunération qui a augmenté pour certains. Ceux qui sont bons vont très, très loin et très, très vite. Le tout, c'est de ne pas avoir peur, de mettre le pied, et puis qu'on apprenne aussi à faire des lettres de candidature, qu'on sache se préparer au recrutement. C'est un petit peu la différence, hein, parfois, avec des écoles, hein, parce qu'on est plus dans le fond et pas assez dans la forme. Et c'est souvent ce qui va pêcher, parce que l'entreprise a besoin d'être assurée, de ne pas avoir un professeur tournesol. Mais bon, mais je vous fais confiance, parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes partie prenante.
Oui, bonjour, Thomas Zakarevitch, je travaille dans un observatoire des politiques de recherche et d'innovation de la Commission européenne. Donc je suis diplômé d'une grande école et docteur aussi. Et j'ai eu l'impression que le fait de faire un doctorat et de ne pas vouloir travailler dans la sphère académique par rapport au diplôme de la grande école, en fait, m'a un peu fait sortir des sentiers battus, ne me faisait pas rentrer dans les cases qui était demandé au moment de l'embauche. Donc vous dites qu'il faut que le docteur doit savoir se vendre. Bon, mon problème, c'est de pas savoir, d'avoir pas vraiment su au moment où j'ai fini ma thèse à qui me vendre. Où est-ce que je... Enfin, j'ai mis du temps avant de pouvoir trouver quelqu'un qui voulait bien m'écouter, avec qui j'avais l'opportunité de faire un entretien d'embauche. Voilà. Donc je suis content d'apprendre aujourd'hui qu'il y a, par exemple, ce que vient de dire Madame, qu'il y a une Association nationale des docteurs de France qui est en train de se créer, ou d'autres plateformes qui visent un petit peu à créer des réseaux de docteurs en France, parce que c'est ce qui m'a justement manqué au moment où je cherche un emploi. Donc, je voulais savoir un petit peu si vous avez des conseils à donner aux jeunes docteurs qui sortent de l'université et qui cherchent un emploi.
Je pense qu'un des... Vous avez sûrement abordé largement la question des thèses chiffres. Je pense que c'est un très bon moyen de commencer à s'orienter. Il y a des entreprises qui en prennent des volumes significatifs. Mais en fait, moi, en vous entendant, je me dis la difficulté qui est sous-jacente à votre observation, c'est que quand on a à la fois fait une école d'ingénieur ou une école de commerce et un doctorat, c'est peut-être parce que son projet professionnel n'est pas complètement stabilisé. Et que la question, c'est peut-être moins de savoir à qui m'adresser pour trouver un boulot que de clarifier c'est la capacité à se vendre. Je vends quoi comme atout à l'entreprise que j'ai en face de moi? La sécurité du diplôme d'école de commerce ou le profil atypique du docteur? Et c'est un peu moi, c'est un peu comme ça que j'interprète ce que vous disiez sur la peur. C'est finalement, qu'est-ce que je vais arriver à vendre?
Ceci dit, on vous forme, la normalisation, ça n'existe pas en enseignement. Donc nous, tous ceux qui arrivent, qu'ils soient docteurs, ingénieurs, juristes, ont notre propre cursus interne. C'est faux de croire qu'un jeune, quelle que soit sa provenance, est opérationnel de suite. Nous avons tous des plans d'intégration. Et le docteur, comme celui qui vient d'école de commerce, passera par cette formation interne. Donc il ne faut pas avoir peur, il faut tester, écrire, aller dans les colloques, poster des choses sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est être visible pour savoir se vendre.
Bonjour, Sébastien Poulain, je suis cofondateur de Doctrix, c'est un blog sur la politique et le doctorat, et d'Humanitude qui met en relation les entreprises et l'université, surtout en sciences humaines et sociales. Et je suis aussi membre de PhD Talent, qui organise un forum d'emploi depuis 4 ans. Et en fait, on a besoin d'aide, on a besoin de personnes éventuellement pour... Alors c'est au niveau de l'Île-de-France, hein. C'est le 16 octobre à la Cité universitaire. Et donc vous êtes tous les bienvenus pour nous rejoindre, pour nous aider à monter ce forum. Alors, c'est intercommu, hein, c'est donc c'est très collectif, c'est associatif, c'est des doctorants, des docteurs. Et tout simplement, je voulais vous demander, est-ce que vous seriez intéressé à l'idée de venir prendre un stand à Renault, à Fnor et à Veolia dans notre forum. Voilà, petite question très pratique, très concrète pour aller jusqu'au bout de la démarche d'aujourd'hui en fait.
Alors là, c'est là que je vois, vous avez fait d'énormes progrès. C'est là que je vois que vous avez fait d'énormes progrès. Je reviens d'ailleurs à l'intervention précédente. Une des choses sur lesquelles vous faites un complexe trop longtemps, c'est que contrairement aux écoles de commerce et d'ingénieurs qui fonctionnent en réseau, voire dans un certain milieu, vous manquez de ce genre de choses et d'organisation. Donc je constate avec joie que vous faites d'énormes progrès, donc vous méritez qu'on vous aide. Donc, c'est veolia.com, hein, le numéro de... On verra après. Hein. Je discuterai ça avec la direction de la communication.
Serge Rossi, école doctorale Sciences de la Vie et la Santé, Aix-Marseille Université. Ben, ma question, c'était une explicitation. Plusieurs fois, vous avez parlé de la qualité du partenariat, un partenariat sérieux entre l'entreprise, Veolia en l'occurrence, et les universités. Qu'est-ce que vous mettez derrière partenariat et surtout sérieux, bien sûr?
Oui, parce que vous m'aurez excusé d'avoir fait un pléonasme malgré moi. Bon, donc non, il est clair que la politique que nous avons avec les universités, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais nous, Veolia est une entreprise qui a une originalité, c'est qu'on a 80% de col bleu, c'est-à-dire de non-chercheurs, de non-ingénieurs diplômés, d'ouvriers, d'employés, etc. Donc depuis des années, nous avons une politique de formation diplômante avec les universités, avec l'éducation nationale, et donc nous avons développé à travers un système de campus régionaux ce type de formation. Derrière, ça nous a permis, avec certaines universités, d'avoir des partenariats pour créer les diplômes, pour monter les partenariats pédagogiques, pour monter les stages, et avec ces universités-là, nous pouvons effectivement monter toute la chaîne. Et c'est ainsi que, avec certaines, le choix se fait souvent par hasard, on n'a pas déterminé qu'il y en avait des meilleures que d'autres, mais il y en a certaines qui ont voulu nous accompagner depuis le début. Il y a aussi des proximités géographiques qui ont fait que, derrière, effectivement, on se fait ici tous les jours d'avoir des universités auxquelles on communique nos offres de stage, nos offres de sujets de recherche, nos sujets de concours, parce qu'on a lancé un concours modeste, certes, mais qui récompense chaque année les meilleurs élèves et les meilleurs sujets de thèse. Et nous, effectivement, nous avons ce type de partenariat à long terme avec une douzaine d'universités en France. Et si vous voulez que je rentre dans les détails, je suis tout à fait prêt à vous communiquer deux ou trois modèles en cachant les noms pour éviter de faire des jaloux. Mais effectivement, c'est quelque chose que nous faisons de très bonne grâce et qui porte bien ses fruits. D'autant que nous sommes dans un groupe qui veut s'ancrer dans le local, dans le régional et dans le territoire, et que l'université est évidemment extrêmement importante pour nous permettre de nous ancrer dans le territoire à long terme.
Oui, bonjour, Simon Thierry de la société Adoc Métis. J'ai pas de questions, c'est juste pour deux, trois éléments d'information en plus qui peut-être peuvent apporter des réponses aux questions qui ont été posées. Y a eu des questionnements sur les compétences qui sont attendues des recruteurs. J'ai envie d'évoquer rapidement une enquête qui n'a pas été encore évoquée beaucoup aujourd'hui, qui est une enquête qui a été faite par un cabinet partenaire du mien, qui est spécialisé dans le recrutement des docteurs. Ils ont fait une enquête en 2012 qui s'appelle « Compétences et employabilité des docteurs », qui a montré notamment, en interrogeant un certain nombre de recruteurs, qu'il y a des compétences qu'ils ont vraiment du mal à retrouver. Vous avez mentionné notamment celles de communication orale et écrite, qui apparaissent effectivement là-dedans. Il y en a d'autres qui étaient mentionnées. Il y a celle de la gestion de projet, celle de l'autonomie, celle de la rigueur dans la pensée, celle de l'habilité, de la capacité à collaborer et celle des compétences linguistiques. Et je crois que c'est effectivement toutes des compétences où clairement les docteurs les ont, et où par contre, quand dans la même étude, on regarde quelles sont les compétences que les recruteurs estiment pouvoir trouver chez les docteurs, et ben il n'y a pas du tout les mêmes compétences. Donc une des réponses sur effectivement comment est-ce qu'on va pouvoir trouver un emploi en tant que docteur, c'est comme vous le disiez, de savoir vendre ses compétences plus que de savoir vendre son diplôme. Une réponse très rapide à la question qui était posée par un docteur qui a fait, j'ai pas attrapé votre nom, désolé, qui demandait comment est-ce que, à qui je dois vendre mon diplôme, auprès de qui je peux me présenter pour vendre mes compétences. J'ai deux, trois exemples sous la main, je vais en citer un pour ne pas monopoliser la parole. Un ami qui est docteur en histoire de l'art, qui a été recruté 3 mois après sa soutenance comme consultant senior dans une boîte qui fait de l'analyse financière pour les traders. Il avait 0 compétence en économie à la base. Simplement, la recherche qu'il a faite, c'est de faire la liste des compétences qu'il avait développées pendant son doctorat. Il a fait la liste au milieu de celle-là des compétences qu'il aimait utiliser. Et ensuite, il a fait une recherche dans toutes les fiches métiers que vous pouvez trouver à droite, à gauche, à l'APEC, au Pôle emploi ou à l'OCDE ou autre, pour voir dans quel métier on avait besoin de ces compétences-là. Il est tombé sur ce métier-là. Sa première réaction, ça a été de dire non, jamais j'irai bosser dans la finance. Finalement, il a quand même utilisé son réseau pour aller voir si le métier correspondait aux clichés qu'il en avait, c'était pas le cas. Et quand il a présenté ses compétences à un cabinet qui bosse là-dedans à 2 pas de la Bourse à Paris, ils lui ont dit, écoutez, les compétences que vous avez développées en 3 ans de doctorat, c'est des compétences que nous, on met minimum 6 à 7 ans à développer chez des gens qui sortent d'école de commerce. Donc on vous recrute, on vous fait une formation sur mesure de 3 mois pour que vous connaissiez quelque chose à la finance, et il a été recruté directement comme consultant senior. Voilà, et dernière remarque, c'est plus un regret. Patrick Fridançon a évoqué à plusieurs reprises l'importance de la fonction publique comme possibilité de carrière pour les docteurs. Je regrette très fortement que dans une table ronde sur recrutement et carrière, nous n'ayons malheureusement pas de représentants du ministère de la fonction publique qui pourraient entendre nos demandes d'intégration de docteurs dans la fonction publique d'État, territoriale ou hospitalière. Voilà. Merci.
Denis Maillet de l'Université de Lorraine, de l'école EMA, Énergie, Mécanique, Matériaux. Le titre de ce colloque, les docteurs, un atout pour les entreprises, on voit bien que ça reste encore une question. Alors, on a beaucoup parlé des compétences d'employabilité, etc., que doivent développer les docteurs, ils doivent se vendre. Maintenant, j'ai une autre question très, très précise au sujet des entreprises qui achètent. On n'a pas entendu parmi les intervenants la réponse à cette question. Je suis ingénieur, je rentre directement dans une de vos entreprises et ensuite j'ai un collègue qui est ingénieur, qui fait un doctorat, qui rentre dans l'entreprise. Quel est le différentiel en termes d'années d'ancienneté qu'accordent vos groupes? Alors j'ai cette question entre un ingénieur et un ingénieur docteur, et j'ai la même question entre un ingénieur et un docteur qui n'est pas ingénieur. Toutes choses étant égales par ailleurs, même personnalité, même compétence, voilà.
Alors on va parler du droit du travail. Le droit du travail, l'ancienneté, c'est le temps que vous passez dans l'entreprise. Donc à partir de là, votre ancienneté, elle démarre au point, au jour 1, quand vous commencez. Ce que vous pouvez négocier, c'est la rémunération si vous avez une contribution plus importante. Mais l'ancienneté sera toujours la même. Que vous soyez docteur, que vous soyez ingénieur, vous arrivez le premier jour. Mais il faut négocier votre création de valeur, votre contribution. C'est ce qui fait la différence. Ce n'est pas parce qu'on a un poste donné qu'il n'y a pas de différence. On a toujours une marge de valeur en fonction de l'individu. Il y a notamment des règles. Moi, j'appartiens à la Convention collective de la métallurgie parce qu'on a été créé par les grandes forges en 1926. Donc à partir de là, dans la Convention de la métallurgie, quand on a des jeunes qui sortent de l'université, ils sont au niveau 6. S'ils sont plus anciens, qu'ils ont fait d'autres choses, ils passent directement au niveau 7. Mais hormis ce genre de choses, sinon le reste, effectivement, est lié à l'ancienneté qu'ils auront dans l'entreprise. Mais il faut qu'ils négocient, s'ils ont de la création de valeur, leur rémunération. Enfin, sachez qu'en général, les hommes savent mieux se vendre que les dames, donc avec un peu de chance. Ben, c'est encore vrai, hein, malheureusement.
Bon, ça dépend où. Ça, c'était la dernière incidente.
C'est vrai.
Venez chez nous. Bien, non, mais pour être... La question que vous posez est exactement la même pour ceux qui ont fait un diplôme d'enseignement supérieur complémentaire. C'est vrai, par exemple, des ingénieurs qui font ce qu'on appelle en français un MBA, ou des littéraires qui font d'autres études complémentaires. J'aurais tendance à dire la chose suivante, c'est qu'il faut bien distinguer de façon très pragmatique le socle, qui est le prix plancher fixé par les conventions collectives, bon, ça on est bien d'accord, et ensuite, quel est le type de poste auquel l'intéressé postule. Il y a une chose qui est maintenant réelle dans les entreprises, c'est qu'on a plus de postes équivalents, strictement équivalents. Il y a 20 ans, on faisait des pépinières, le plus souvent, on prenait un certain nombre de jeunes qui étaient issus de formations similaires, qu'on mettait dans les entreprises et qu'on formait. Aujourd'hui, chacun des postes est assez calibré et donc le niveau de rémunération qui sera affecté à un poste tiendra compte des compétences qui sont requises pour ce poste-là. Et donc je ne suis pas en mesure de dire aujourd'hui que si vous avez un doctorat en plus d'un diplôme d'ingénieur, vous aurez systématiquement un plus par rapport à l'ingénieur qui n'a fait que l'école d'ingénieur. En revanche, ça dépend énormément du type de poste qu'on va lui affecter. Je prends un exemple, l'ingénieur qu'on a envoyé, qui a fait un doctorat en plus, qu'on a envoyé en Inde récemment, lui, effectivement, l'a rémunéré de la façon dont il fallait. S'il avait postulé à quelque chose qui était auquel un ingénieur, entre guillemets, tout court, aurait été éligible, ça n'aurait pas été forcément le même cas. Bon, néanmoins, il faut que vous sachiez que le docteur tout seul, entre guillemets, et ça peut être de mesure à vous rassurer, le docteur tout seul, qui n'a pas fait d'autres études préalablement, est pris très exactement comme un ingénieur de très bon niveau, du top des écoles d'ingénieurs, et il est pris de la même façon.
Je complète parce que je crois qu'on est tous alignés, parce que comme vous l'avez rappelé, c'est le droit du travail quand même qui commande. La double formation, dans un entretien d'appréciation des compétences qui vont être mises en œuvre dans un poste comparable, peut permettre aux recruteurs de se dire, puisqu'il a fait à la fois ce cursus universitaire jusqu'au doctorat et ce cursus d'école d'ingénieur, alors je peux imaginer qu'il mettra en œuvre des compétences différentes. Et dans les entreprises, il y a des grilles qui permettent de valoriser ou un VIE, ou un double diplôme, ou un stage long significatif à l'étranger. Donc, dans une limite de 5 à 9, 9, 10%, on sait valoriser une double formation. Mais non pas parce que c'est une double formation, mais parce que dans l'entretien, le fait d'avoir cette double formation a permis de démontrer qu'on avait des compétences qu'on avait déjà mises en œuvre qui permettent de justifier une différence de traitement de salaire. Parce que sinon, après, on est confronté à la question de la discrimination salariale.
Bonjour, Antoine Trédès pour l'UNEF. Moi, j'avais deux questions à faire. La première sur le débat sur la reconnaissance du doctorat dans les conventions collectives, où je trouve que finalement il y a quand même une forme d'hypocrisie sur ce débat, puisque ça a été expliqué à la fois ce matin aussi dans cette table avant que c'est pas le statut qui fait le salaire des docteurs, pour autant que du coup sont les compétences individuelles de chaque docteur, etc., qui permettent sa reconnaissance dans l'entreprise. Sauf qu'à côté de ça, aujourd'hui, les titres d'ingénieurs sont reconnus dans les conventions collectives, ils sont pris en compte dans les entreprises, donc si ce n'était pas un problème pour un ingénieur à reconnaissance égale, alors pourquoi ce ne serait pas pour un doctorant? Pourquoi pas franchir ce pas-là, puisque le doctorat c'est quand même le diplôme le plus élevé aujourd'hui en France, et que c'est pas une étude, c'est l'OCDE, mais chaque année d'étude, notamment pour les doctorants, c'est productivité sur le marché du travail qui est décuplé. Donc ça, c'est ma première question, c'est du coup, pourquoi pas franchir ce pas-là et nous sortir un peu de ce débat que je trouve assez hypocrite. Et le deuxième, plus en positif, c'est sur les VAE, ça a été posé ce matin, mais je pense que c'est plus dans cette table ronde-là que ça a sa place, l'accès au doctorat par validation d'acquis et d'expérience. Aujourd'hui, on est quand même on est dans une société où les parcours très tubulaires, je vais me former, je vais travailler, je vais aller à la retraite, ils sont de moins en moins vrais. Et à partir de là, l'accès au doctorat par VAE, c'est quelque chose. Enfin, l'accès aux licences en master par VAE, c'est quelque chose qu'ils disent. Pourquoi on ne franchirait pas d'y accéder en VAE dans le cas où, justement, aujourd'hui, on parle de formation seconde à vie, de reprise d'études, etc. Je pense que, notamment dans la négociation qui a lieu sur le nouvel arrêté doctoral, ça pourrait être quand même un pas à franchir pour permettre, justement, de sortir de la type qui, par ailleurs, favorise. Souvent ce qui pour le capital culturel et social qui est très fort, mais justement permet à n'importe quel salarié qui progresse dans notre entreprise, etc., pour prendre des études, pratiquer le diplôme de doctorat et lui-même contribuer à apporter à son entreprise.
Oui, juste deux mots et en réponse. Bon. Je vous laisse évidemment la responsabilité du fait de dire que c'est hypocrite de dire que telle ou telle chose, c'est ainsi. C'est triste à dire peut-être pour vous, mais c'est ainsi. Il y a une convention collective, il y en a plusieurs, il y a des socles. Le docteur, il doit, j'aime pas le terme se vendre, et je le récuse, le docteur, il doit montrer ce qu'il sait faire, il doit montrer son adaptation à des postes de travail, et les entreprises, elles recrutent en fonction de leurs besoins, en fonction de l'activité économique, et ça, bon, ce qui est normal, et derrière, je peux vous garantir que, je parle en présence de la vice-présidente de l'NDRH, les entreprises font extrêmement attention au fait de respecter, et même au-delà de ça, les compétences et les statuts des personnes lorsqu'elles les embauchent. Sur la VAE, nous on la pratique beaucoup. Alors c'est vrai que c'est tout neuf pour le doctorat. On a une expérience en cours avec l'université de Cergy-Pontoise, d'une VAE doctorante. On va voir comment, ce que ça donne. On est plutôt pour, culturellement, chez Veolia pour la VAE. Donc on va voir ce que ça va donner. Cela dit, c'est une des voies parmi d'autres d'arriver effectivement à faire en sorte qu'un salarié puisse progresser dans ses études, et nous sommes effectivement partisans de ce sujet-là, qui n'est pas exclusif d'autres domaines. Mais ce que je vous encourage à faire aussi, c'est à titre amical, si vous me le permettez, et je vais vous faire une confidence, j'étais il y a très longtemps président de l'UNEF à La Roue-Saint-Guillaume, juste après François Hollande. Vous voyez, il y a très longtemps, vous n'étiez pas né. Vous voyez comment on peut évoluer, on peut parfois se compromettre avec le grand capital aux abois. Néanmoins, la confidence que je peux vous faire, c'est aller voir les entreprises, connaissez les entreprises, voyez comment ça se passe. Vous verrez que ce sont des mondes complexes qui ne sont pas le monde pur et parfait auquel on peut s'attendre, ni non plus le monde compliqué et complexe auquel on peut s'attendre. Néanmoins, c'est un monde passionnant dans lequel je suis persuadé que quelqu'un qui a une expérience du syndicalisme étudiant peut trouver son bonheur.
Juste pour compléter, la référence à laquelle vous faites allusion, elle est juste. Les conventions collectives aujourd'hui, virgule, qui datent d'il y a 40 ou 50 ans, elles associent un niveau de diplôme à un niveau de qualification. Il faut savoir que les travaux qu'il peut y avoir à droite ou à gauche dans les différentes conventions collectives sont en train de fortement s'interroger sur ce référentiel-là. Il est plutôt amené à évoluer dans un sens qui ne le prolongera pas, plutôt que l'inverse. Voilà, j'ai un petit tout petit peu d'informations.
Concernant la VAE, je voudrais revenir dessus puisque la Confédération des jeunes chercheurs trouve cela positif, à condition qu'elle soit bien encadrée, notamment par le projet d'arrêté qui est actuellement en discussion. Et la VAE, donc au sens de la Confédération des jeunes chercheurs, devrait être encadrée par les écoles doctorales, de manière à ce que le candidat ou la candidate souhaite valoriser, enfin que la recherche que le candidat ou la candidate souhaite valoriser soit réalisée dans le cadre d'une activité professionnelle comme n'importe quel doctorat. En particulier, cela passe par la constitution d'un dossier de candidature permettant de vérifier que ce candidat ou cette candidate puisse accéder à une VAE, qu'il y ait effectivement une rédaction d'un manuscrit, puisque les entreprises l'ont souligné, c'est une compétence importante. Donc qui est rédaction d'un manuscrit permettant de valoriser le travail de recherche et qui soit sous la direction d'un ou d'une encadrante titulaire d'une HDR. Et enfin, que lors de la soutenance, le jury soit composé et constitué dans les mêmes proportions que celui d'un jury traditionnel de doctorat, en respectant notamment la parité, si cela est possible.
Donc, il est 17h. 17. Donc nous devons hélas clore cette table ronde. Le temps est compté. Table ronde à la tournure très positive. Je crois qu'on pourrait la clore par un slogan. Docteur, oubliez vos complexes, les entreprises vous aiment. Voilà, je vous remercie.